Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes de la radio francophone iranienne en ce dimanche 19 février 2023, le 30 Bahman 1401 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique qui porte sur le partenariat stratégique sino-iranien. Restez avec nous. Le leader a accordé une audience aux représentants du gouvernement et aux ambassades des pays islamiques à Téhéran. L'Iran dénonce la campagne d'iranophobie de l'Occident et au moins 20 civils ont été tués ou blessés dans une nouvelle frappe israélienne contre la Syrie. C'étaient les principaux titres de l'actualité, en voici les détails. À l'occasion de la grande fête de Mabas, commencement de la mission du prophète de l'Islam, un groupe de responsables du pays, de représentants et d'ambassadeurs de pays islamiques en poste à Téhéran et des gens de différentes couches de la société ainsi que des invités participant à la compétition internationale du noble Coran ont été reçus en audience par le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei. La désignation du grand prophète de l'islam est le plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité. La raison en est que sa mission, c'est-à-dire Be'esat, porte des trésors inépuisables pour l'humanité, lesquels peuvent assurer le bonheur de l'homme dans sa vie, ici-bas et dans l'au-delà, a-t-il poursuivi. Plus loin, dans son discours, l'ayatollah Khamenei a évoqué la cause de la Palestine, affirmant, dixit, « Si les gouvernements islamiques étaient restés fermes sur la question de la Palestine dès le premier jour et s'ils avaient résisté, la situation dans la région de l'Asie occidentale aurait certainement été différente et l'Oumma islamique aurait été plus forte et plus unie qu'aujourd'hui. » L'ayatollah Khamenei a réitéré les positions claires et fermes de la République islamique d'Iran en faveur des Palestiniens opprimés, affirmant que l'Iran n'a aucune réserve à soutenir et à défendre ouvertement la nation palestinienne. Une nation et un pays sont soumises à une oppression sans fin et quotidienne sous les yeux du monde de l'islam et par un régime barbare et pervers. Des pays islamiques, avec toute leur richesse et leur capacité, ne font que regarder et même certains d'entre eux, surtout récemment, accompagnent ce régime sanguinaire, a-t-il dénoncé. On vous lisait aussi en titre, et le ministère iranien des Affaires étrangères affirme que la campagne de propagande anti-iranienne de l'Occident n'est qu'une tactique usée pour dissimuler ses propres crises. En réaction aux allégations du secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur le nucléaire iranien, Nasser Kanani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a qualifié d'infructueuse les tentatives de l'Occident et des trois principaux alliés européens de lancer une campagne de propagande contre la République islamique d'Iran. Déclencher des crises externes et jouer à un jeu de blâme sont deux tactiques et stratégies usées jusqu'à la corde de l'Occident et du régime israélien pour dissimuler leur propre crise interne au milieu de la vague de protestations et de grèves populaires répétées qui les frappent, d'autant plus qu'ils font face à des difficultés sur la scène internationale, a-t-il précisé sur son compte Twitter. L'actualité aussi est surtout la Syrie, où Israël a lancé dimanche à l'aube une nouvelle attaque au missile sur Damas, la capitale, et ses environs. Selon l'agence de presse officielle syrienne Sana, les défenses aériennes syriennes ont intercepté la plupart des missiles tirés par l'aviation israélienne. Plusieurs bâtiments situés dans le quartier densément peuplé de Kafar Soussa, dans le centre de Damas, ont été endommagés, a-t-on appris de la même source. Pendant ce temps, l'agence de presse Al-Mayadin a rapporté que la frappe israélienne avait touché des zones de la périphérie de Damas, le quartier de Kafar Soussa et de Tal al-Masi, près de la ville de Shaaba, au nord de Souaïda, dans le sud-ouest de la Syrie. La Syrie a porté plainte à plusieurs reprises auprès de l'ONU contre les agressions israéliennes, exhortant le Conseil de sécurité à prendre des mesures contre les crimes de Tel Aviv. Mais cette instance fait la sourde oreille aux revendications de Damas. Toujours dans l'actualité moyen-orientale, le ministre yéménite de la Défense exhorte les Saoudiens à saisir l'opportunité de mettre fin à la guerre dévastatrice contre le Yémen. Le ministre de la Défense du gouvernement de salut national a appelé l'Arabie saoudite à saisir l'opportunité offerte par le leader du mouvement de résistance populaire Ansar Allah pour conclure un accord de paix à la lumière de la médiation d'Oman, qui essaye de préparer le terrain au pourparlers direct entre les représentants du gouvernement de Sanaa et l'Arabie saoudite. Le général de division Mohamed Nasser Al-Atefi a fait ses remarques lors de la commémoration de l'anniversaire du martyr du leader d'Ansar Allah, Hossein Badreddin Al-Houssi, dans la capitale yéménite, Sanaa. Le général de division a salué la patience, la fermeté et le dévouement du peuple et de l'armée yéménite qui apporteront, souligne-t-il, leurs fruits. Nous sommes en possession d'outils et de mécanismes efficaces et efficients. Notre détermination inébranlable nous a également permis d'être totalement indépendants dans la prise de décision, a affirmé le ministre yéménite de la Défense. Et pour fermer le journal, les responsables militaires russes l'ont déclaré à Sputnik, l'armée ukrainienne a largué une munition contenant une toxine non identifiée sur les positions de l'armée russe près des villages de Rojaïnoï et de Velikaya Novoselka dans la direction du Gledar, ont déclaré des responsables russes. Dans la matinée du 16 février, deux drones d'attaque ennemis sont apparus au-dessus des positions russes près du Gledar. L'un des drones a été immédiatement abattu, tandis que l'autre a fini par larguer une munition chimique sur nos positions, a déclaré un officier militaire russe. L'explosif a explosé et deux soldats russes exposés à l'attaque ont subi des brûlures au poumon, a précisé l'officier, ajoutant que les deux hommes présentaient des symptômes révélateurs d'un empoisonnement, notamment des vomissements et une irritation des muqueuses. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. Partenariat sino-iranien, nouvel ordre mondial se forme, analyse du journaliste indépendant Pepe Escobar. Le principal acquis de la visite du président iranien Ebrahim Raisi à Pékin va bien au-delà de la signature de 20 accords de coopération bilatéraux. Selon Pepe Escobar, il s'agit d'un point d'inflexion crucial dans un processus historique intéressant, complexe, qui dure depuis des décennies, l'intégration de l'Eurasie. Il était assez encourageant de voir le président iranien faire l'éloge de l'ancienne route de la soie, non seulement en termes de commerce, mais aussi en tant que lien culturel et reliant différentes sociétés à travers l'histoire. Raïsi aurait pu parler de la Perse sassanide, dont l'empire s'étendait de la Mésopotamie à l'Asie centrale et fut la grande puissance commerciale intermédiaire de la route de la soie pendant des siècles entre la Chine et l'Europe. C'est comme s'il corroborait la notion célèbre du président chinois Xi Jinping d'échange entre les peuples appliquée aux nouvelles routes de la soie. Et puis le président Raïsi a évoqué le lien historique incontournable. Il a abordé l'initiative Ceinture et Route BRI, dont l'Iran est un partenaire clé. Tout cela énonce la pleine reconnexion de l'Iran avec l'Asie après ces années sans doute gaspillées à essayer une entente cordiale avec l'Occident collectif. Cela a été symbolisé par le sort du plan global d'action commun, PGAC, ou l'accord sur le nucléaire iranien, négocié unilatéralement, enterré, puis l'année dernière pratiquement condamné à tout prix. On peut affirmer qu'après la révolution islamique d'il y a 44 ans, un pivot vers l'Est naissant s'est toujours caché derrière la stratégie officielle du gouvernement ni Est ni Ouest. À partir des années 1990, cela est progressivement entré en pleine synchronisation avec la politique officielle de la porte ouverte de la Chine. Après le début du millénaire, Pékin et Téhéran sont de plus en plus synchronisés. La BRI, la percée géopolitique et géoéconomique majeure, a été proposée en 2013 en Asie centrale et en Asie du Sud-Est. Puis en 2016, le président Xi s'est rendu en Iran, ce qui a conduit à la signature de plusieurs protocoles d'accord et récemment du vaste accord stratégique global de 25 ans, consolidant l'Iran en tant qu'acteur clé de la BRI. En pratique, la visite de Raïsi à Pékin a été conçue pour accélérer toutes sortes de vecteurs de la coopération économique irano-chinoise, des investissements cruciaux dans le secteur de l'énergie, pétrole, gaz, industrie, pétrochimique, pipeline, au secteur bancaire. Pékin s'étant engagé à faire avancer les réformes de modernisation dans le secteur bancaire iranien et les banques chinoises ouvrent les succursales à travers l'Iran. Les entreprises chinoises sont peut-être sur le point d'entrer sur les marchés émergents de l'immobilier commercial et privé iranien et investiront dans les technologies de pointe, la robotique et l'intelligence artificielle dans tout le spectre industriel. Des stratégies sophistiquées pour contourner les sanctions unilatérales et sévères américaines seront au centre des préoccupations à chaque étape des relations sino-iraniennes. Le troc fait certainement partie du tableau lorsqu'il s'agit d'échanger des contrats pétrogaziers iraniens contre les contrats industriels et d'infrastructures chinois. Il est tout à fait possible que le Fonds souverain de l'Iran, le Fonds national de développement de l'Iran, avec des avoirs estimés à 90 milliards de dollars, soit en mesure de financer des projets industriels et d'infrastructures stratégiques. L'énergie aussi est au cœur du partenariat stratégique bilatéral. Les accords énergétiques, pétrole, gaz, industrie pétrochimique, énergie renouvelable, vont exploser dans ce que j'ai appelé le pipelinistan au début des années 2000, précise Pepe Escobar. Les entreprises chinoises feront certainement partie des nouveaux oléoducs et gazoducs se connectant au réseau de pipelines iraniens existant et configurant de nouveaux corridors et pipelines. On peut dire que le nœud central du partenariat stratégique Chine-Iran est la configuration d'une architecture économique géostratégique complexe reliant le corridor économique Chine-Pakistan, CECP, le fleuron de la BRI, à un corridor à deux volets centré sur l'Iran. Cela prendra la forme d'un corridor Chine-Afghanistan-Iran et d'un corridor Chine-Asie centrale-Iran, formant ainsi ce que l'on pourrait appeler un corridor économique géostratégique Chine-Iran. Pékin et Téhéran, désormais surmultipliés et n'ayant pas de temps à perdre, peuvent faire face à toutes sortes de défis et de menaces de la part de l'hégémon. Mais leur accord stratégique de 25 ans au nord des civilisations commerciales, marchands historiquement puissants, désormais équipés de bases manufacturières, industrielles, substantielles et d'une tradition sérieuse d'innovation scientifique de pointe.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, le gazoduc Nord Stream 1 et 2 ont été explosés il y a 5 mois. Un gazoduc qui acheminait le gaz russe vers l'Europe a été donc complètement interrompu depuis. Alors, certains analystes et des responsables occidentaux pensent que c'est la faute à la Russie qui, selon eux, donc, cherchent depuis très longtemps de créer une crise énergétique en Europe et partout dans le monde. Mais la preuve est avec des preuves irréfutables et des enquêtes longues depuis ces 5 derniers mois, avec 5 mois de déni, on a une force de constater que c'est la faute d'un axe US, OTAN, donc à l'origine de ces explosions. Voilà, nous allons essayer de voir pourquoi à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Après 5 mois de déni, c'est au final l'Amérique et l'OTAN qui ont été révélés comme responsables des explosions de Nord Stream 1 et 2. Le scandale américano-otanien après 5 mois de déni. Parmi ceux qui ont pointé du doigt les États-Unis, on notera Radek Sikorski, un représentant de la Pologne au Parlement européen, ancien ministre des Affaires étrangères de ce pays, qui a écrit dans un tweet décoré d'une photo de gaz provenant des pipelines Nord Stream « Merci aux États-Unis d'Amérique ». C'est ensuite Seymour Hersh, le journaliste lauréat du prix Pulitzer, qui a révélé aussi que c'est le président américain Joe Biden qui, après plus de 9 mois de discussions et de délibérations hautement confidentielles au sein du Conseil de sécurité nationale américaine, avait ordonné le sabotage des pipelines Nord Stream 1 et 2. Dans la révélation faite par ce journaliste, il est précisé qu'à l'été 2022, sous couvert d'exercice de l'OTAN, des plongeurs américains avaient déposé des explosifs dans les pipelines Nord Stream 1 et 2.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat, diffusant de Téhéran, M. Fabrice Béor, expert de l'ONG EOT, qui est avec nous depuis Moscou. M. Béor, bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation.
Tout le plaisir est pour nous et un grand bonjour à M. Habib Tawa, journaliste et expert des questions internationales qui a accepté notre invitation depuis Paris. Monsieur Tawa, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Je vous en prie, ma première question va s'adresser à Monsieur Béor qui est avec nous depuis Moscou. Alors, pourquoi saboter du gazoduc qui achemine du gaz russe vers l'Europe? Qui, d'après vous, est à l'origine de cette explosion et pourquoi, à votre avis?
Bon, la chose est très simple et claire depuis le début. À qui profite le crime? Je rappellerai que les États-Unis, dans le cadre, ils le savent très bien, ça fait quelques années déjà, qu'on voit les prémices de la fin de la domination américaine, du moins de la domination unique américaine sur le monde, parce que la mondialisation n'est en fait qu'une américanisation. Et vous avez donc une préparation de cela depuis plusieurs années. On a bien vu que les États-Unis ont besoin, ils se replient en réalité, puisqu'ils n'ont pas la puissance aujourd'hui qu'ils avaient auparavant, de part qu'ils ont d'autres, on va dire, ils doivent faire face à d'autres puissances qui montent, se reconcentrent sur leur meilleure des colonies, à savoir les pays européens, mais en cela, vu qu'ils dominent toujours, ils ont besoin d'éliminer la concurrence, voire même de la vampiriser. Le principal pays concurrent, qui est en fait le locomoteur économique de l'Union européenne, c'est l'Allemagne. Ça a toujours été un objectif de remettre à sa place par rapport à l'impérialisme américain l'Allemagne. Mais l'Allemagne qui faisait plus ou moins économiquement cavalier seul, qui pouvait le faire de par une relation privilégiée avec la Russie et des contrats à long terme sur l'énergie, et en particulier sur le gaz, puisque ça a été une décision allemande de choisir le gaz en abordant le nucléaire, entre autres. Et vous avez donc, pour résumer rapidement, Biden qui, en février, avec la visite quand même du chancelier Scholz à Washington, en sa présence devant les journalistes, aux questions qui est posée, mais vous êtes contre donc cette dépendance allemande à l'énergie russe, et que, se passera-t-il? C'était en février, donc avant le début de l'opération militaire spéciale donc russe en Ukraine, dans l'ancienne Ukraine. Vous avez Biden qui a répondu, je paraphrase, que s'il y avait une invasion russe, à ce moment-là, Nord Stream 2 s'arrêtera et qu'il mettrait tout en place pour le faire. Et lorsque la journaliste a posé, mais comment vous allez le faire? Ils ont dit, on le fera parce qu'on a les moyens de le faire. Bon, voilà, les éléments sont simples. Il suffit d'être honnête. Il ne s'agit pas d'être même pro-russe ou pro-américain. Il suffit de prendre les faits, de les poser. Et d'arriver à la conclusion simple, si c'était les Russes, mais pourquoi les Russes auraient-ils fait sauter un pipeline dont ils sont les propriétaires et dont ils ont le robinet à l'entrée? Il suffit de couper le robinet, c'est tout, pas de détruire leur propre propriété. C'était même si ça n'a jamais été pris comme cela en réalité, parce que les Russes sont très procédurier, et respecter les contrats, bien que le pays en question, l'Allemagne, menait une politique anti-russe dès le début. Mais que s'est-il passé? Les Russes ne vont pas utiliser cela comme une arme. S'ils voulaient l'utiliser comme une arme, ils coupaient le robinet, ça suffisait amplement. Ils ne vont pas détruire leurs propres biens. Et donc, pour terminer, on est dans une situation où vous avez, pendant des mois, un silence total. Des pays tels que l'Allemagne, je crois, ont dit que oui, ils ont les résultats, mais qu'ils ne vont pas les communiquer, puisque c'est une question de sécurité nationale. Bon, on sait très bien, c'est les Américains qui l'ont fait, avec la complicité de qui, peu importe, c'est les Américains qui l'ont fait, pour couper la dépendance, ou du moins la relation économique et le partenariat en réalité économique, puisqu'il y avait l'énergie russe d'un côté et l'industrie allemande de l'autre, qui aurait pu aboutir, tant bien que faire, une possibilité, puisqu'on pourrait beaucoup dire de choses sur l'Union européenne, bien évidemment, qui aujourd'hui est visible à la face du monde, à l'union des deux Europes en réalité, d'une manière ou d'une autre, puisque c'est la peur géopolitique américaine de voir l'union de l'Europe de Vladivostok à Lisbonne, puisque par défaut, ce serait la première puissance économique mondiale, elle perdrait les États-Unis donc son rôle de centre, et on sait très bien que les États-Unis ne fonctionnent qu'avec la vampirisation du monde, avec le dollar, etc., ainsi de suite, toutes ces questions qui vont avec. Donc, on est devant une farce. On est devant une farce, et il n'y a que les idiots utiles des médias européens pour faire croire que c'est la Russie qui aurait pu faire ce sabotage. Les États-Unis sont habitués à ce genre d'action, et surtout, ils le revendiquent. Ils l'ont fait avant. Ils l'ont fait même pas à demi-mot avec Mme Nuland. Bon. Il faut vraiment être aveugle ou servile pour ne pas reconnaître une réalité. Mais vous savez, aujourd'hui, on est dans le monde occidental, on est aujourd'hui dans une réalité virtuelle où on commente les propres affirmations de propagandistes qui ne se basent sur rien. Donc à partir de là, vous savez, tout est possible, comme des ballons qui deviennent des ovnis. Pourquoi pas?
Absolument. Donc, des propos très clairs. Merci pour cette introduction, M. Béor. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Habib Tawa, qui est avec nous depuis Paris. M. Tawa, est-ce que vous voulez bien réagir face aux propos de M. Béor quand il parle donc d'une farce quant à ce sabotage, ces explosions qui sont donc au détriment de l'Europe, en fin de compte, mais qui sont à l'origine, donc l'axe OTAN-Amérique?
Je suis assez d'accord sur l'analyse de fond de M. Béor. Je remercie aussi la présentatrice qui, au début, a très bien décrit une grande partie des événements qui ont précédé, qui ont suivi ces attentats. Il y a un certain nombre de petites précisions que je voudrais ajouter. D'abord, au niveau de la réalité des choses, ce que l'on a constaté, c'est l'asservissement de l'Europe à la politique américaine. Quand on dit que le chancelier Scholz pouvait savoir ce qui allait se passer et qu'il ne réagit pas, il réagit comme un agent américain, non pas comme un responsable de la politique allemande. Ça, c'est un premier détail. Second point, au niveau des événements eux-mêmes, il ne faut pas oublier la déclaration de Vladimir Poutine qui a dit que c'est un attentat anglo-saxon. Il n'a pas utilisé le mot états-unien. Et il a dit ça parce que les premières données qui sont arrivées sur le marché de l'information, disaient qu'il s'agissait d'un attentat britannique. Les Britanniques sont coutumiers des coups tordus dans lesquels ils se cachent derrière quelqu'un d'autre. D'une manière générale, la politique américaine est une extension des ambitions anglaises. Depuis le temps de Mackinder en 1905, déjà, on sait que l'objectif des Anglais et des Américains qui sont leurs héritiers est de démolir la Russie, pour des raisons qui relèvent de la théorie du pudeau que je ne vais pas développer ici. Donc, il y a ce premier point, il y a la déclaration de Poutine, il y a les premières déclarations qui sont sorties en disant que c'était les Britanniques, et on a tout à fait l'impression que la nouvelle qui parle de Seymour Hersh, etc., qui lui-même est un porte-parole de la CIA en général depuis bien longtemps, depuis l'époque de la bombe atomique israélienne et bien avant, on peut penser que les Américains ont voulu couvrir les Anglais qui étaient les hommes d'action. Un autre point que je tiens à rappeler, c'est que les Norvégiens, 2 ans plus tôt déjà, donc avant même que cette histoire ne soit entamée, pardon, pas les Norvégiens, les Suédois, avaient découvert des explosifs qui avaient été mis contre le Nord Stream 1, lesquels ont été désamorcés par les Suédois eux-mêmes. Donc je vois très bien une implication britannique se cachant derrière les Américains. Troisième point, ou bien quatrième point, il ne faut pas oublier les déclarations qui ont été faites par le chef d'état-major anglais quand il a pris son pouvoir il y a à peu près 1 an, en disant pour la première fois depuis 70 ans, nous, l'Angleterre, allons être impliqués dans une guerre en Europe. Donc le tandem anglo-américain est responsable, mais avec à sa tête l'Angleterre, tente toujours de se dissimuler. Comme on a pu le voir, par exemple, quand il y a eu les accords qui ont été passés à Astana en mars dernier, dans lesquels les Ukrainiens et les Russes étaient arrivés à un accord pour arrêter le conflit, à la suite à laquelle l'armée russe s'est retirée des environs de Kiev. Et quand ils sont revenus en Ukraine, les négociateurs ukrainiens ont été désavoués parce que Boris Johnson était venu à toute vitesse à Kiev en disant « continuez la guerre, continuez la guerre ». Et le principal négociateur ukrainien qui avait donné son accord a été tué dans des conditions très mystérieuses à l'époque. Donc, je vois fort bien la main de l'Angleterre derrière le paravent américain. Mais ça ne change pas le fond des choses, c'est pour ça que j'approuve l'analyse de mon collègue de Moscou. Et je pense que...
Justement, M. Tawa, excusez-moi de vous interrompre. J'aimerais beaucoup connaître l'avis de M. Baer concernant vos propos. Bon, le fait que les États-Unis mènent ces opérations pour créer une crise gazière en Europe et aussi pour la Russie, ça peut se comprendre. Mais le Royaume-Uni, à votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de M. Tawa quand il dit que c'est le Royaume-Uni qui est derrière ces attentats et ce sabotage?
Dans les détails de l'opération, pour l'instant, personne ne le sait, enfin personne publiquement, bien évidemment, j'imagine bien que même les Russes doivent le savoir en détail, mais pour autant, que ce soit les Anglais qui l'aient fait d'eux-mêmes, je doute par eux-mêmes, c'est-à-dire leur propre décision. L'Angleterre n'est que le porte-avions, a totalement intégré un APS américain, la nouvelle Carthage, puisque pour moi, on est toujours en géopolitique entre la puissance continentale et la puissance thalassocratique, entre la puissance... qui était Rome et Carthage pour simplifier, et la nouvelle Carthage chez les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en réalité, qui a vu le basculement justement du monde et la prise de contrôle du monde en partie par les États-Unis jusqu'à la chute de l'URSS, où là ils se sont évidemment répandus dans le monde jusqu'à la montée de la Chine et le retour sur la scène internationale de la Russie. Et donc, que ce soit les Anglais qui les ont fait, ou comme on dit aujourd'hui, je ne crois pas plus à cette théorie sur que ce soit les Norvégiens. Je ne sais pas ce que feraient les Norvégiens alors qu'il y a la Suède à côté, enfin bon, peu importe, avec les Américains. Bon, en tout cas, ça défend les intérêts des États-Unis qui est de de couper le cordon énergétique russo-allemand afin de le rendre totalement dépendante des États-Unis. Et à mon humble avis, c'est pour couper les élites économiques du pays. Je ne parle pas des élites financières, je parle des élites économiques, ce ne sont pas les mêmes, parce qu'on sait très bien que dans la plupart des pays européens, et en particulier en Allemagne, c'est le parti américain, c'est les Young Leaders et toute cette politique depuis des années de préparation, de mise en place des élites atlantistes, puisque comme ça a été précisé par M. Habib Tawa, vous voyez bien que son pays est attaqué par les États-Unis et il ne dit absolument rien. Il ne veut pas livrer des tanks, les États-Unis font un forcing et ils commencent à livrer des tanks et à avoir un discours même plus radical que les États-Unis. Bon, ça me rappelle un petit peu d'ailleurs son voisin français. Ça n'a pas d'importance. La réalité, c'est que c'est bien une politique américaine, mise en place par les Américains, par les Anglais, peu importe. Moi, je vois bien effectivement les Anglais le faire, puisque les coups tordus, évidemment, c'est eux le pion. Ils ne sont plus dans l'Union européenne, mais ça n'a pas tellement d'importance, ils sont dans l'OTAN. Voilà la vraie raison. Et on le voit bien dans la politique russophobe, que les pays qui sont en pointe, vous avez les psychopathes de Varsovie et vous avez Londres. La presse britannique, même celle qui pourrait entre guillemets être plus mainstream, mais retenue aujourd'hui, c'est un tombeau d'insultes et de propagande de bas niveau. Donc on voit bien que ce sont ces deux pays-là qui sont la pointe avancée de la politique américaine, qui est la vassalisation totale des pays de l'Union européenne pour continuer sa politique de domination, puisque les États-Unis ont besoin de sang neuf économique, financier, industriel, pour pouvoir faire face à la montée de la Chine et au retour de la Russie qui l'empêche un peu d'avancer dans son plan. Voilà pour moi la situation.
Oui, merci. Monsieur Tawa, donc ce qui est important, c'est tout de même la réaction de la population européenne à l'égard de tels scandales, donc le rôle important du Royaume-Uni et des États-Unis dans le sabotage et l'explosion donc du Nord Stream 1 et 2, qui aura donc pour résultat l'augmentation du prix du carburant, donc la baisse du niveau de vie pour les Européens. Où est la réaction des Européens à cet égard?
D'abord, je voudrais répondre à une question qu'a posée M. Bayer. Le rôle éventuel de la Norvège est lié au fait qu'après l'explosion de cet oléoduc, a été introduit un autre conduit qui conduisait le gaz norvégien en Pologne. Et ça, c'est un rapport aussi qui n'a pas été établi, mais on sait qu'il y a un conduit qui est allé de la Norvège à la Pologne, donc les Norvégiens y avaient intérêt. Ça, c'est un premier point. Pour répondre à votre question elle-même, il y a un asservissement de l'Europe. Ça ne veut pas dire que c'est un asservissement des populations européennes. Tous les jours, nous voyons des grandes manifestations se dérouler en France, en Allemagne, en Italie aussi à un moment donné, contre la guerre, contre la politique menée par les élites. Les élites ont été phagocytées par le courant américain. Ça ne veut pas dire que les populations européennes soient soumises. On va les soumettre par l'économie, mais du point de vue de l'opinion générale, les opinions générales sont souvent dressées contre cette politique anti-européenne, parce que c'est finalement une politique anti-européenne. Quand vous regardez à l'échelle du monde, vous voyez que la principale victime de cette guerre, même si elle l'a perdue, ce n'est pas tellement la Russie que l'Europe occidentale qui a été mise à genoux et qui est en train de le devenir. Donc il y a une vassalisation à travers des pouvoirs complices de l'Europe, de l'Union européenne. Ce qui ne signifie pas que pour autant les autres pays du monde, l'Inde, la Chine, le Brésil, etc., ne profitent pas d'une situation qui finalement ne convient qu'aux États-Unis, parce que le principal concurrent de la géopolitique américaine, c'est un éventuel rapport entre l'Union européenne et la Russie qui ferait un bloc bien plus important que le bloc économique constitué par les États-Unis et par le dollar qui finalement est un fabricant de papier.
Oui, M. Béor, votre réaction joue au prix. Même si les Européens donc sachent très bien que la faute est aux États-Unis, pour l'intérêt des États-Unis, et que fait donc la population européenne à cet égard? Est-ce que la réaction de la population est suffisante?
Non, évidemment, elle n'est pas suffisante, mais il faut faut comprendre dans l'environnement dans lequel elle s'inscrit. Vous avez cette période du Covid qui a un peu anesthésié les résistances des uns et des autres, puisque ça a été une division. Imaginez qu'ils sont arrivés à faire accepter par les gens en France de signer soi-même un papier pour pouvoir sortir son chien. Et les gens l'ont accepté. Donc, c'est assez particulier dans lequel on est sorti. Et puis, vous avez aujourd'hui une propagande immense dans les médias, évidemment, que j'appelle les médias de l'OTAN. Alors, évidemment, aujourd'hui, de plus en plus de gens regardent moins en moins ces chaînes de télé. On le voit, vous avez Xavier Niel, qui est donc un oligarque français, qui dit qu'il est en train de reprendre une partie des médias français encore, et une concentration encore plus importante qui est en cours, qui veut faire revenir les gens d'Internet à la télévision. Ça veut tout dire. En France, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il faut le faire revenir à la bonne parole, au nouveau clergé qui diffuse. Donc, vous avez, pour moi, un peu cette anesthésie. Et puis, vous savez, quand vous êtes dans une position où vous n'avez plus véritablement de défense collective, que vous avez des partis politiques qui se disputent sur des sujets annexes, volontairement ou involontairement, vous savez, des fois, c'est pas besoin d'être complotiste. La bêtise humaine, des fois, suffit à comprendre certaines choses. Vous avez une forme de refuge dans ces problèmes quotidiens et les problèmes plus importants, surtout quand on vous fait peur tout le temps. C'est une politique de la peur sur la guerre nucléaire tout le temps qu'ils amènent en avant. Vous avez une résistance moindre. Pour autant, dans certains pays plus que d'autres, en particulier en Allemagne, vous avez une résistance de plus en plus importante. Vous avez une pétition qui est, voilà, il y a déjà plusieurs jours maintenant, doit être plus de 500 000. Plus de 400 000 personnes, tout du moins lorsque j'avais prêté attention à quelques jours, qui avaient signé une pétition, mais qui était vraiment en plus ouverte par une députée de Die Linke, du Bundestag, mais qui est vraiment ouverte à tout le monde, qui n'est pas du tout même orientée politiquement, mais qui précise très clairement qu'ils ne veulent pas entrer dans une guerre américaine en Europe. C'est exactement… donc il y a des signes, on va dire, qui démontrent que la propagande ne fonctionne pas intégralement, mais manifester c'est bien, signer une pétition c'est bien, mais interpeller ses députés et ses ministres c'est autre chose.
Monsieur Béor, donc les Européens vont se laisser faire, donc que les intérêts américains prennent le dessous donc des intérêts des Européens.
Vous voyez bien quel est le... Alors, et après il y a des questions de personnes comme Macron qui dit qu'il faut pas humilier la Russie et maintenant qu'elle doit perdre dans la guerre. Enfin bon. Parlons des gens sérieux, tout du moins qui pourraient paraître sérieux. Qu'est-ce que fait l'Allemagne ? L'Allemagne est en train de se faire vampiriser. L'Europe est en train de se suicider. Et que font même les élites économiques, alors que ce sont, en particulier en Allemagne, ce ne sont pas leurs intérêts ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Tout simple, ils commencent à déménager aux États-Unis où l'énergie sera de toute façon, même après cette crise, sera 2, 3, 4, 5 fois moins chère. Parce que les États-Unis sont producteurs, donc ils peuvent aussi travailler sur ça. Il y a un problème, en fait, parce que tous les gens parlent du prix, mais ce n'est pas tellement le prix de l'énergie qui pose en réalité la vraie question. La question, c'est l'offre, parce que l'offre n'est pas exponentielle, elle est même en train de baisser dans le monde. Et la partie asiatique du monde est en train d'augmenter sa consommation. Déjà, elle sort de la période Covid, donc ça repart. Donc, on est dans une situation où toutes les décisions de l'Union européenne, suivies intégralement, à part quelques exceptions, par certains pays, va à son encontre. Et avec des choses totalement irréalistes, le futur paquet de sanctions que veut faire le dixième paquet de sanctions contre la Russie que veut faire l'Union européenne, par exemple, pour vous montrer le côté loufoque, c'est qu'ils vont interdire l'envoi de bidets et de sanitaires. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Ça devient tellement ridicule. Et ils interdisent l'exportation des terres rares. Mais l'Union européenne n'en produit pas. Vous voyez, on est dans un monde totalement irréaliste. Ils vivent, soit ils reconnaissent, soit ils savent ce qui est en train de se passer, mais ils ne peuvent pas se dédire tellement qu'ils sont imbus de leur orgueil, de leur instinct de supériorité ou tout simplement la vassalisation qu'ils ont à leur maître Yankee. Ou alors ils sont vraiment idiots. Je pense que c'est un mixte de tout cela, parce que quand vous voyez, je terminerai là-dessus, pour la France, Bruno Le Maire qui vous disait, on le répète tout le temps, mais c'est un plaisir quand même, il ne faut pas zapper ce plaisir-là, qu'ils allaient mettre à genoux la Russie, alors que même le FMI dit aujourd'hui, dans un an, deux ans, ce sera plutôt l'inverse qui va se passer. Bon.
Absolument. Absolument.
Vous voyez, on est dans une situation où franchement, Nietzsche, je vais finir avec cela sur votre question. Nietzsche disait que l'Europe, je paraphrase, que l'Europe se fera au bord du gouffre. Les gens ne réagiront simplement lorsqu'ils arrivent peut-être devant la catastrophe. Mais si tant est que ce puisse être les pays, l'Italie, la France, l'Allemagne, ils pourraient encore avoir, selon moi, un petit espoir. Mais quand vous avez vraiment, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, des paranoïaques qui ont une haine, mais qui relèvent de la psychiatrie ou de clinique que sont les Polonais, les Anglais jouent leur jeu, hein, voilà, leur jeu habituel de division, mais vous avez une situation où, même devant la réalité, qu'on sait très bien que ça va finir par une victoire militaire russe, parce que ça ne peut pas être autrement de toute façon, mais que certains vont aller jusqu'au bout, vous vous dites, face à la guerre, même à un moment, même, vous devez vous arrêter de vous mentir à vous-même, quoi.
Tout à fait.
Il s'agit à ce moment-là de votre propre survie, mais non. Les pays européens continuent à se suicider et ils continuent aujourd'hui avec le 10e paquet de sanctions. Ils y vont droit dans le mur, droit dans le mur.
Absolument. Eh bien, Habib Tawa, journaliste depuis Paris, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à Fabrice Béor, expert de l'ONG EAOT, qui est avec nous depuis Moscou et qui a apporté beaucoup de précisions à cette émission, Le Débat. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'Afrique économie de ce 19 février, une émission dans laquelle nous allons réviser les informations et les actualités économiques qui se sont passées durant la semaine dernière dans le continent africain. Restez avec nous. Le spécialiste des VTC revendique plus de 47 millions de clients, 900 000 chauffeurs et plus d'un milliard de trajets sur les 7 marchés africains où il opère, c'est-à-dire l'estonien Bolt qui annonce 533 millions de dollars d'investissement en Afrique durant les deux prochaines années. Ces nouveaux investissements devraient générer plus de 300 000 nouveaux emplois. La start-up de mobilité estonienne Bolt a annoncé jeudi 16 février qu'elle allait investir 500 millions d'euros pour étendre ses activités en Afrique au cours des deux prochaines années. À l'heure où de nombreux pays sont confrontés à des défis économiques, nous continuerons à renforcer notre présence en Afrique grâce à ce nouvel investissement qui offre un potentiel massif de création de nouveaux emplois et de revenus pour les chauffeurs et les livreurs, a déclaré le fondateur de Bolt. Monsieur Willy, qui doit également effectuer une visite au Kenya, a également indiqué que ces nouveaux investissements sur le continent devraient permettre à plus de 300 000 nouveaux chauffeurs et livreurs de rejoindre la plateforme de mobilité dès 2023. Alors que de nombreuses entreprises réduisent leurs investissements compte tenu de l'environnement macroéconomique, nous reconnaissons l'effet transformateur que des plateformes comme Bolt peuvent avoir en Afrique. Nous opérons sur des marchés où le chômage est souvent élevé et en continuant à développer nos services, nous offrirons aux gens de nouvelles opportunités de bien gagner leur vie en étant chauffeur, tout en fournissant à des millions de clients un moyen sûr, fiable et abordable de se déplacer dans leur ville, a souligné de son côté le directeur régional pour l'Afrique de l'Est et Australe de Bolt. Bolt offre actuellement des services de VTC et de livraison dans 7 pays africains, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana, le Nigeria, l'Ouganda, la Tanzanie et la Tunisie. La start-up fondée en 2013 a aussi lancé Bolt Business, sa branche dédiée aux voyages d'affaires au Nigeria, en Afrique du Sud, au Ghana, en Tanzanie et au Kenya. Thank you. 2 Africa est le troisième système de câble sous-marin international auquel se connecte le Mozambique. Jusque-là, le pays était desservi par les systèmes SICOM et ICI depuis 2009 et 2010 respectivement. Le système de câble sous-marin à fibre optique 2 Africa de Meta a atterri à Maputo. C'est ce qu'a annoncé vendredi 17 février l'opérateur de centre de données Ikolo, qui hébergera l'infrastructure de 45 000 km dans ses nouvelles installations de la capitale mozambicaine. L'arrivée de 2 Africa à Maputo sera suivie d'une deuxième installation du système de câbles sous-marins à Nacala, au nord-est du pays, à Pronton. L'installation se fera en partenariat avec un opérateur télécom local. Le consortium 2 Africa poursuit le déploiement progressif de son infrastructure. Le câble vient de renforcer l'infrastructure télécom nationale du Mozambique. Une fois mis en service, il soutiendra les autres systèmes de câbles sous-marins internationaux auxquels le pays est actuellement connecté, si comme ICI, Eastern Africa Submarine System. Cela devrait améliorer la qualité et la couverture des services télécom. Le nouveau câble devrait également contribuer à accélérer la transformation numérique ainsi que le développement socio-économique du Mozambique. Une étude de RTI International prédit que 2 Africa aura un impact économique de 26,2 à 36,9 milliards USD, soit l'équivalent de 0,42 à 0,58% du PIB de l'Afrique dans les 2 à 3 ans suivant sa mise en service. Minerals Income Investment Fund est un fonds souverain créé en 2018 par le Parlement du Ghana afin de maximiser les revenus miniers du pays. Son actuel PDG compte en faire d'ici 2030 le plus grand fonds minier souverain d'Afrique avec plus d'un milliard de dollars d'Afrique sous gestion. Le Minerals Income Investment Fund, un fonds souverain lancé par le gouvernement du Ghana, prévoit d'investir 30 millions de dollars dans la compagnie minière australienne Atlantic Lithium. Cette dernière pilote le projet d'Ewoyaa, en bonne voie pour devenir d'ici 2024 la première mine de lithium du pays. Selon le communiqué publié le jeudi 16 février par le MIIF, les négociations portent sur une prise de participation au capital de la société cotée sur l'ASX. Une fois actionnaire, le fonds souverain compte jouer un rôle dans le développement par Atlantic Lithium d'infrastructures locales permettant la transformation du lithium en matériaux pour batteries électriques. Notre objectif stratégique est de soutenir le développement du traitement du lithium, le développement de la fabrication de batteries et d'intrants supplémentaires, ainsi que la préparation au soutien d'un marché des véhicules électriques au Ghana pour servir la sous-région, explique Edouard Nanaya Okoranteng, PDG du MIIF. Par ailleurs, une cotation d'Atlantic Lithium sur la bourse du Ghana est envisagée, a ajouté M. Koranteng. L'objectif est de permettre aux épargnants nationaux de profiter plus directement des retombées liées à l'exploitation d'Ewoyaa en devenant également actionnaire de la compagnie. Pour rappel, le projet Ewoyaa peut rapporter près de 5 milliards de dollars de revenus selon l'étude de préfaisabilité publiée en 2022. Il ne s'agit pas du premier projet dans lequel MIIF investit, puisque pas plus tard qu'en mars dernier, le fonds est entré au capital du Canadien Asante Gold, propriétaire de 2 mines d'or au Ghana. Le gouvernement du Bénin met en œuvre un plan de développement de l'enseignement technique et professionnel. Ce plan accorde une place importante au secteur agricole où la demande de ressources humaines qualifiées est à la hausse. Le Conseil des ministres du Bénin du mercredi 15 février a donné son approbation pour le lancement des études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé pour le compte de la réalisation d'un projet de création et de réhabilitation de 30 lycées techniques agricoles.
Les études permettront de déterminer les installations à faire sur les sites et les espèces de culture à mettre en avant dans chaque lycée, et ce, en fonction des composantes socio-économiques et environnementales. Il sera également question d'affiner davantage le modèle économique et le modèle de gouvernance des lycées qui fonctionnent comme des établissements autonomes au Bénin. Ces préalables devront être orientés dans l'optique d'offrir aux apprenants des expériences d'apprentissage de qualité. Ces lycées modernes seront structurés et organisés de manière à permettre la formation de véritables exploitants agricoles, dotés de compétences et aptitudes appropriées leur permettant de mettre en place et de gérer convenablement leur propre installation. Dans sa nouvelle stratégie nationale pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle, le gouvernement du Bénin a orienté les efforts vers la formation d'une masse importante de compétences techniques et professionnelles dans plusieurs secteurs, dont l'agriculture. Le projet pourrait bénéficier de l'expertise de la France. En novembre, une délégation béninoise s'est rendue dans l'Hexagone pour visiter des écoles agricoles et bénéficier de bonnes pratiques et de transferts de technologies. D'après le calendrier mis en place par le gouvernement, les établissements devraient accueillir les apprenants dès rentrée 2025.
Thank you.